Fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format proposé par Le Troisième Lieu. Vous êtes aujourd'hui avec les athlètes de la radio pour vous parler sport et compétition en tout genre. Alors, je vous explique le concept, il est très simple, on se rassemble ici entre passionnés dans ce beau studio pour débattre, se raconter des petites anecdotes historiques ou personnelles, mais aussi tester notre culture avec des petits jeux. Bref, on est là pour s'amuser, et vous l'avez bien compris, à chaque fois... Pour les émissions, nous aborderons un thème spécifique lié à la pratique du sport, mais aussi sur des événements d'actualité ou des événements historiques sur lesquels on fera un retour. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de nous pencher sur les enjeux de l'engagement associatif dans le sport et plus généralement de la pratique du sport en club. Et pour ce faire, vous imaginez bien que je ne suis pas seul au micro, donc aujourd'hui, pour m'accompagner, on a trois invités de qualité et pour commencer à ma gauche, on a Fabien. Salut Fabien, comment tu vas ?
Salut.
Enchanté, merci de nous avoir ici. C'est pas très français, mais t'es content d'être là quand même, ça va ?
Très content.
Cool. Devant moi, on a Théo au bout de la table. Théo, comment tu vas ?
Bah ça va, salut tout le monde.
Et à ma droite, on a Oumar. Salut Oumar.
Salut, ça va ?
Ça va bien les gars, vous êtes contents d'être là aujourd'hui, petite émission en détente pour parler sport. C'est la première, j'espère que vous tiendrez le coup, mais je vous fais confiance parce que je connais votre taf et je connais votre talent. Merci d'être là en tout cas. Et donc, je pense que pour cette émission, on a une très très bonne équipe parce que justement, on va parler de l'engagement en club et de la pratique en club. Et justement, on a tous eu une assez grande expérience en club. Pour savoir, j'aimerais bien avoir rapidement... Combien d'années vous avez fait en club ? Quel sport vous avez pratiqué ? Et c'était quoi votre sport favori si jamais vous avez fait plusieurs clubs ? On peut peut-être commencer par toi, Fabien.
Ok, bah moi j'ai fait 12 ans de basket dans le petit club de la ville de Gilles-sur-Yvette.
De Gilles-sur-Yvette, c'est où ?
Ouais, c'est en banlieue parisienne.
Ok.
En passé STAPS aussi, j'ai fait 3 ans de basket en STAPS et plein d'autres sports.
Ouais.
Et j'ai entraîné pendant 2 ans dans ce club de Gilles-sur-Yvette.
Ok, en même temps que le STAPS, j'imagine, du coup.
C'est ça.
Normal. Et t'as fait ta licence STAPS ?
Yes.
Ah ouais, donc pratique et formation sport.
Un spécialiste.
Voilà. Théo, en face.
Alors moi, j'ai commencé par le rugby. Ouais, vu mon gabarit, c'est pas...
Alors chose vous le voyez pas à la radio, mais ouais, c'est vrai qu'on l'imagine pas être pilier. Après, je pense que tu peux être très performant.
Bah, j'étais ailier. Mais ouais, j'ai commencé par un an de rugby. Après, j'ai fait 2 ans de judo.
Yes.
Et après, j'ai fait 10 ans de basket. Et aujourd'hui, je suis en équipe universitaire à Lyon 2, toujours en basket.
Ok. El Capitaine, on l'appelle, non ?
Non, pas encore.
Monsieur le coach, en intérim. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais ouais, let's go basket. Vous voyez qu'il y a déjà une expérience un petit peu sur le basket. Mais c'est normal parce que c'est un des meilleurs sports du monde. N'en déplaise à la passion d'Oumar. Oumar, tu peux nous raconter un peu ?
Alors moi, j'ai fait 8 ans de handball à Vénissieux, donc yes. À Vénissieux Handball, donc c'est quand même l'un des clubs connus dans les années 90. J'ai joué ailier droit, donc quand j'étais petit, bon, la croissance n'était pas là, mais je faisais 1m60, donc... Là, actuellement, je continue le poste.
C'est venu avec le temps.
Ouais, là, c'est venu avec le temps.
Moi, je te vois maintenant, je ne me suis pas divisé 1m60, le gars.
Là, on me voit plus comme un pivot en arrière, mais... Voilà, et je suis à l'université aussi et je suis le capitaine de l'équipe 2.
Voilà, le mec c'est lui, est le capitaine. Ouais. Et tu joues toujours à Vénissieux ?
Non, là je ne joue pas à Vénissieux.
Non, c'est fini. Ok, c'est tu jouais à quel niveau, juste pour savoir ?
Je faisais du régional et championnat national.
Lourd,
18.
Ok. Et...
Le mec est chaud.
Très très cool. Écoutez les gars, pour commencer, donc maintenant qu'on a enregistré l'intro, je pense qu'on peut passer sur la première partie de l'émission. Et pour ce faire, on va tous prendre la parole chacun notre tour pour raconter une anecdote. On va appeler ça les chroniques Le Saviez-Vous. Donc c'est un fun fact, une anecdote sur votre sport de prédilection ou pas. Donc on va faire un tour de table. Je vais laisser commencer celui qui le veut. Fab, si tu veux.
C'est parti.
T'es chaud ? Yes. Allez, bah on part pour l'anecdote de Fabien.
Ok, donc ces dernières années, lorsqu'on parle des athlètes de haut niveau, on a souvent en tête l'image des sportifs à hygiène impeccable qui suivent des régimes alimentaires drastiques et ne s'autorisent que quelques excès en cas de victoire. Mais pourtant, on a de nombreux exemples qui montrent que c'est loin d'être le cas. Notamment le dernier MVP de la NBA, Nikola Jokic, qui, avant d'arriver en NBA, buvait 3 litres de coca par jour.
On a eu des images de lui quand il était enfant. C'était pas l'athlète...
C'est un beau bébé.
Voilà, c'était un beau bébé. Mais c'est toujours un beau bébé, ouais.
C'est ça. On a aussi vu des clichés de footballeurs comme Verratti, Zidane ou Nainggolan qui fumaient des clopes.
Toujours.
Après l'entraînement.
Après l'entraînement, bah pour bien s'oxygéner. Non,
par contre, pas besoin d'utiliser l'imparfait, il en fume toujours.
T'inquiète, tu auras toujours du Marlboro dans leur poche. T'inquiète pas.
Surtout Verratti.
Mais ouais, l'histoire que je vais raconter, elle est bien plus triste. C'est celle de Michael Phelps. Le 29 septembre 2014, donc 4 mois après sa sortie de retraite sportive, il est arrêté pour conduite en état d'ivriété au volant et à la sortie d'un casino à Baltimore. Et donc on en conclut que son mode de vie était catastrophique entre alcool, soirée et casino. Les rumeurs courent alors qu'il s'entraînerait même alcoolisé. Mais cette arrestation, ça va être un déclic pour lui. Il raconte à Sports Illustrated qu'il reste enfermé chez lui pendant 5 jours après cet événement.
Wow.
Et se rend compte de sa dépression. Mais poussé par sa famille, il décide de guérir et il passe 50 jours dans une clinique pour soigner son addiction et revient dans les bassins en 2015 pour préparer les JO de Rio, au cours desquels il gagnera pas moins de 4 médailles d'or.
Ça va, c'est un bon retour.
Ouais, pour un mec alcoolique, ça va.
Ces événements-là, c'est arrivé pendant sa pause, c'est ça ?
Ouais, il était pas. Sportive, ouais.
Ok.
Il avait arrêté en 2012, du coup, après les JO
de Londres.
Londres,
ouais, c'est ça. Et il s'y est remis. 2014.
Et incroyable ce comeback.
Ouais, bah surtout qu'il a quand même fait au moins 4 ou 5 mois d'entraînement, du coup alcoolisé, et ça reste assez impressionnant. Mais donc ce Michael Phelps, qui est l'homme le plus titré de l'histoire des Jeux, n'est pas le seul sportif à être tombé dans l'addiction aux psychotropes. Rien qu'en natation, il y a aussi Ryan Lochte, Ian Thorpe et Grant Hackett qui sont aussi fait des cures des désintox à l'alcool. Certains médecins font d'ailleurs le rapprochement entre addiction et sport de niveau. Notamment à cause des rituels de force, de victoire ou de défaite.
C'est-à-dire ?
Donc, par exemple, on va faire. On va essayer de boire la plus grande quantité d'alcool pour montrer notre force à endurer l'alcool. Ou alors, après, on connaît tous, après une victoire, on boit une bière.
Ouais, non,
défaite, on essaie de se remettre de la défaite en buvant de l'alcool.
T'as connu un peu ce syndrome en STAPS ou pas du tout ?
Ouais, carrément.
Un petit peu, ouais.
La troisième mi-temps. Pour amateur, c'est un peu connu.
Ouais, bah.
Après les matchs le dimanche.
D'accord, mais en tout cas, pour le truc de Michael Phelps, je ne connaissais pas, je te laisse continuer.
Ouais, vraiment, c'est assez sombre. Et donc, traumatisé par cette expérience, Phelps s'est engagé dans la lutte pour la protection de la santé mentale des athlètes.
Cool.
En produisant le documentaire The Way of God. The Weight of Gold, dans lequel il déclare que, je peux le dire honnêtement, je crois pas qu'en me remémorant ma carrière, quelqu'un ait été assez impliqué pour nous aider. Je ne crois que quiconque soit venu nous demander si nous allions bien. Tant que nous avons des performances, je crois que rien d'autre ne comptait. Donc il serait peut-être temps qu'on se rende compte que les sportifs de haut niveau ne sont pas seulement des monstres de performance, mais bien des humains dont les sacrifices sont innombrables et qui sont aussi soumis aux mêmes problèmes que les autres, notamment en termes d'addiction.
Bah, et justement, sur le thème de la santé mentale, maintenant, on entend beaucoup plus de sportifs faire des déclarations sur ce sujet-là. Ouais. Et par exemple, en NBA, on a l'exemple de Kevin Love, qui a beaucoup aidé sur ce sujet, et en tout cas à le démocratiser et de porter à peu près le même message qu'a pu avoir Michael Phelps. Mais je pense qu'avec ça, Michael Phelps a pu ouvrir la voie à d'autres initiatives qu'on voit aujourd'hui. Je pense que c'est un grand step dans la représentation qu'on a des sportifs et leurs conditions mentales aussi.
Ouais, ça, et puis ça évolue depuis quelques années parce que, surtout au niveau de l'alcool, où c'est de moins en moins bien vu de boire de l'alcool quand on est sportif.
Mmh.
Et pouvoir parler de ça, c'est important parce que
non,
ça
clair.
Reste quand même vachement. Ça touche quand même beaucoup de monde.
Exactement.
Après, il y a l'alcool, mais il y a l'histoire de drogue, parce que, Dylan, je pense que t'es censé le savoir, mais tu sais,
la drogue, ouais, je connais, ouais.
Non, le joueur, c'est, tu sais, le joueur qui était un grand espoir, puis qui est mort le jour de la draft.
Oh, waouh, en universitaire, c'est quoi son nom déjà ? Je me rappelle plus du tout.
Je sais plus.
Moi, j'ai l'exemple de, si rien à voir en NBA, de Delon West, ancien coéquipier de LeBron James dans les années 2010, donc au Cleveland Cavaliers, qui a totalement sombré après sa retraite et qui avait été retrouvé SDF à Dallas il y a un an, je crois, qui est maintenant pris en charge et tout. Il a été aidé notamment par la communauté NBA. Mais des exemples comme ça, on en a plein. Et je pense que le boulot de Michael Phelps était super, super important. D'ailleurs, son documentaire, on peut le retrouver où ? Si tu sais.
Je sais pas du tout, mais je peux le répéter, c'est The Weight of Gold.
Ok, le poids de l'or, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Et ouais, bah il y en a énormément. Enfin, même on a Allen Iverson, etc. Donc c'est beaucoup.
Ouais, c'est
là, c'est vraiment un sportif qui a tellement performé, c'est le.
C'était
le
Rooney,
plus titré au monde.
Le plus titré, pas de sa discipline.
Non,
des JO. Pardon, tu comprends ou pas?
Même à l'époque athénienne, on n'avait pas.
Mec, c'est incroyable.
Autant de.
Non ouais, c'est fou. Mais cette histoire est folle. Je savais pas du tout moi que Michael Phelps avait eu des déboires comme ça. Enfin, maintenant que tu en parles, c'est vrai que l'interview sur Sport Illustrated, j'en avais entendu parler parce que ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais c'est un travail hyper important. Et oui, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire du plus grand athlète, un des plus grands athlètes des JO. Donc bah parfait Fab, merci beaucoup pour cette chronique, c'est très cool. On va pouvoir enchaîner avec Théo si t'es chaud.
Ouais, avec plaisir. Alors moi, c'est pas vraiment une anecdote, c'est un fait d'actualité, parce que vous êtes en ce moment, il y a le tournoi Destination.
Yes.
On a une belle équipe de France. On a 3 matchs à domicile au Stade de France, dont un le week-end dernier contre l'Italie. Ça fait quand même 12 ans qu'on n'a pas gagné un tournoi Destination. La dernière victoire, c'était en 2010. Et les deux dernières éditions, on a fini deuxième.
Et pourtant, voilà, on est dans une bonne dynamique.
Ouais, de façon un peu tragique. Et puis surtout, l'enjeu, c'est de préparer la Coupe du Monde 2023 qui se passe en France, où je pense qu'on a des grandes chances de gagner. Alors, on a commencé par un match, une victoire un peu laborieuse face aux Italiens, surtout au début de match.
Laborieuse.
Bah le début de match a été quand même un peu compliqué.
L'Italie s'est bien battue, mais au final le score il est.
Mais en fait, ouais, 37-10. Mais là par exemple le match de ce week-end contre l'Irlande et je pense à mon avis un point fondamental du tournoi de destination, parce que l'Irlande a vraiment très bien performé contre le Pays de Galles. C'était vraiment une démonstration.
Ah, c'était impressionnant.
Et on sent que les Anglais malheureusement ont beaucoup de blessés et c'est un peu une équipe B, surtout qu'on les joue à domicile cette année. Donc ce match à domicile au Stade de France, je rappelle, qui sera diffusé sur France Télévisions à 17h45. Sera un match à mon avis important contre les Irlandais.
Non, c'est sûr. Bah, je pense que au moment où vous écouterez cette émission, ce match sera déjà passé.
Ouais.
Et on espère avoir des bons résultats pour le tournoi Destination. Mais c'est vrai que nous, à l'heure où on enregistre ça, on attend fortement le match de samedi contre l'Irlande, parce que c'est un peu la bête noire du tournoi Destination. Là, c'est une équipe. Moi,
ouais,
c'est
tout. C'est eux qui ont gagné l'année dernière. Et puis c'est une grosse équipe, hein, l'Irlande. Ils ont aussi battu les Blacks. On l'oublie. Ça reste avec des très très gros joueurs, et encore une fois je répète, le match face au Pays de Galles
c'était impressionnant. On a l'impression que le Pays de Galles c'était des clowns, alors que
ouais,
ils sont trop forts.
Ça... après le Pays de Galles aussi a pas mal de blessés, mais non ça reste très très fort.
Ok.
Après, et... on peut s'appuyer sur des joueurs quand même cette année qui sont assez bons.
L'équipe de France.
Ouais.
Bah ouais, il y a notamment Dupont qui est dans une forme étincelante. Ntamack, bref, on a un pack qui est très très solide. On a un banc aussi qui est plutôt bien fourni. Donc non, il y a une très très belle équipe de France. Ça fait des années, parce que je suis quand même le rugby depuis pas mal d'années, on a connu quand même les années sombres vers le milieu des années 2010. C'était quand même c'était pas bien joli. Hein.
Bah, puis la preuve, même toi, tu as commencé par le rugby, comme tu nous as dit
ouais,
la dernière fois.
Vrai,
donc il y a une petite attache, je pense.
C'est vrai. Non,
c'est cool.
Puis en plus, là où je vis, c'est quand même pas mal une terre de rugby. Hein. Genre,
tu viens d'où, pour rappeler ?
Alors moi, je viens de Le Creusot, en Saône-et-Loire. Plus largement en Bourgogne.
Voilà.
Et c'est plutôt une terre de rugby, parce qu'on est une petite ville et le club de rugby est en Fédéral 2. Alors pour expliquer, c'est la 4e division de rugby national, donc c'est quand même pas dégueu.
Okay.
Et à une certaine époque, on était en première division, alors ça c'était le siècle dernier, mais c'était...
l'époque dorée du Creusot.
C'est ça.
Voilà, c'était ça.
Non, il y avait une bonne équipe.
Ok, très très cool. Bah écoute, merci de nous avoir parlé du tournoi Destination. On va suivre ça à fond et on va être derrière les Bleus, ça c'est certain. Et puis des grosses attentes sur la Coupe du Monde 2023 qui arrive en France, faudra pas rater les matchs.
J'espère pas que la finale se tiendra à Lyon.
Non.
Ouais, la finale de la Coupe du Monde 2023, ce sera à Lyon.
Et surtout, faut pas rater le match d'ouverture, si je dis pas de bêtises, c'est face aux Blacks.
Ouais, okay. Black.
C'est tout.
Donc ça serait pas mal, surtout quand tout le monde se rappelle du match fantastique qu'ils ont fait il y a quelques mois contre les Blacks, avec une victoire juste exceptionnelle. Quoi.
Génial. Bah écoutez, on vous souhaite de suivre ce tournoi destination et on souhaite le grand chelem à nos bleus comme à chaque fois, mais bon, on va voir si c'est possible ou pas. Et en attendant, bah, justement, on va passer à autre chose avec l'anecdote de Oumar.
Alors, ce sera pas une anecdote, mais plutôt une fait d'actualité sur certains clubs de Lyon de hand, puisque comme vous pouvez constater, le handball lyonnais n'est pas totalement bien représenté dans le handball français, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'handballeurs lyonnais qui sont très connus, Baptiste Bonnefond qui a joué à Villeurbanne et actuellement il joue en Biélorussie au club de Brest, donc il y a une autre ville qui s'appelle...
C'est pas
Brest.
En Bretagne ?
Non, non.
Non. Super drôle cette blague.
Il y a une autre ville qui s'appelle Metekov-Brest en Biélorussie.
Ok.
Donc, je vais quand même vous parler, par exemple, de Vénitieux Handball qui font une série d'invincibilité, c'est-à-dire qui n'ont perdu aucun match depuis le début du championnat.
Cette année ?
Ouais, cette année, wow. Donc depuis le début de la saison. Et quand même, pour Vénitieux, ils ont une recrue qui s'appelle Zakaria Ndiaye. C'est l'un des joueurs qui a joué au Paris Saint-Germain de handball. Et au Chartres, donc quand même c'est une grosse recrue c'est une grosse recrue pour le VHB. Pareil pour le club de Brou Handball qui aussi font une série d'incivilités, être premier, qui pourront peut-être retrouver la N1 puisque ça fait depuis 2005 qu'ils n'ont pas retrouvé la N1.
Ok, et ils jouent au même niveau que Vénitieux ?
N2 féminine, ouais.
N2 féminine et Vénitieux, c'est
N2 garçon aussi.
N2 garçon, ok. Ouais. Parce que je me suis dit, si jamais les deux, c'est N2 garçon, le choc va être incroyable. Ouais. Bron, Vénitieux, les deux invaincus, ce serait fou. Mais du coup, c'est
mais du coup, c'est deux catégories différentes. Les deux côtés. Et okay. Franchement, ça fait plaisir. Et je leur souhaite le meilleur.
Bah, exactement. Bah, écoute, est-ce qu'on
club en plus, non ?
Hein ?
C'est ton club en plus.
Ouais, c'est
bon. Ah oui, il y a Vénitieux, là.
Ah oui, même si je joue pas, je suis quand même Vénitieux. Voilà.
Non, c'est sûr. Vous jouez où, si on peut aller voir les matchs, si alors, jamais vous êtes sur Lyon ?
Alors, vous pouvez voir les matchs à Tola-Volage pour Vénitieux. Donc,
à Tola-Volage pour Vénitieux ?
Ouais, mais celui de Vénitieux, ouais.
Ah oui, non, je suis bête, il y a deux salles, parce que ouais. Moi j'allais dire, c'est ma salle de basket à Bron, Tola-Volage.
Ouais. Gymnase Tola-Volage à Vénitieux, donc c'est du côté de Moulin à Vent.
Ouais.
Et pour Bron Handball, c'est à la Halle des Sports, à côté du lycée Jean-Paul Sartre, pour ceux qui savent. Et c'est à 21h et il y aura une bonne ambiance dans les deux côtés.
Top, génial. Bah écoute, je suis jamais allé voir du handball et ça me chauffe pas mal. Je pense que si un jour tu m'invites pour aller voir Vénitieux, je serais très très chaud.
Ou pour Bron,
oui, c'est vrai.
Voilà, pas de soucis.
Alors Théo, tu avais une question pour Oumar sur le handball ?
Ouais, parce que quand même on est plutôt dans une grande ville et une ville plutôt sportive qui est Lyon. Et je voudrais savoir, c'est quand même assez étrange qu'il n'y ait pas une équipe de handball féminin et masculin en première division nationale française.
Après, comment dire, c'est que dans les années, comme tu avais dit, oui, dans les années 90, il y avait quand même des clubs lyonnais qui étaient en première division comme Vénitieux. Donc c'était un peu leur belle période puisqu'ils ont quand même gagné le championnat, la Coupe de France et être quand même en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais après cette belle période, ils ont eu un problème judiciaire. Du coup, ils n'ont pas eu de fonds pour quand même rester en D1. Du coup, ils étaient obligés de descendre petit à petit dans les championnats inférieurs. Du coup, ça a dû être un problème. Mais Vénitieux essaie quand même de remonter la pente. Pour au moins la NA ou la deuxième division.
Voilà. Et tu pourrais nous rappeler la hiérarchie des championnats en handball ?
Alors, au handball, donc, chez les garçons, nous avons première division, deuxième division, N1, N2, N3, qui sont en championnat national. Chez les filles, nous avons D1, D2, N1, N2, N3, mais sauf que les N3, ils sont en région, donc niveau régional.
Ah, ok.
Ouais.
Ok.
C'était récent ce règlement puisque c'est depuis 2 ans qu'ils ont établi ce règlement puisqu'avant c'était N3 filles nationales. Du coup ça a changé.
Ok, d'accord.
Ouais.
Quelques problèmes de club, ça c'est des problématiques sur lesquelles on va revenir dans le débat et on va profiter donc pour finir, moi j'ai oublié de dire ma petite anecdote mais j'en ai une si ça vous intéresse.
Vas-y.
D'ailleurs petite anecdote,
c'est parti.
Lyonnaise, vous ne le savez peut-être pas mais notre cher club de l'ASVEL à Villeurbanne a été créé avant la NBA.
Oh.
Donc l'ASVEL existe avant la NBA, alors en fait on y est presque. Hein. Vous l'avez sûrement remarqué, donc si vous suivez le basket américain cette année, on fête les 75 ans de la NBA. D'ailleurs, la Ligue communique beaucoup sur ça cette année, car c'est donc le 3 août 1949 que la NBA est née de la fusion de la NBL et de la BAA, qui étaient les deux ligues professionnelles qui se battaient un petit peu pour le monopole aux États-Unis. Donc le basket existait déjà, il y avait déjà des ligues professionnelles, mais la NBA voit le jour le 3 août 1949. Mais à Lyon, c'est en 1948 que l'association sportive de Villeurbanne Éveil Lyonnais, donc l'ASVEL, voit le jour, et d'ailleurs le succès n'a pas tardé pour le club, car nous remportons, oui je dis nous parce que maintenant je me sens lyonnais, nous remportons le premier titre de champion l'année suivante en battant Marseille avec un magnifique 7 sur 42 au tir du pivot François Nemet. Voilà, donc bon, les matchs à l'ancienne, j'aurais peut-être pas pris autant de plaisir que sur les matchs aujourd'hui, mais voilà pour la petite anecdote. L'ASVEL.
Déjà ou pas, tu penses?
Pardon?
Ils avaient le droit de dribbler déjà?
Je pense qu'ils faisaient une passe à 10 et qu'après ils mettaient le ballon dans le petit arceau. Non, mais ça devait être incroyable. Quand tu vois des pourcentages comme 7 sur 42 et c'est le meilleur joueur.
Ah ouais.
C'est pas 7 sur 42 pour rigoler. Non, non, c'est vraiment. Un bel impact 7 sur 42. Donc voilà, c'est des stats un peu marrantes.
Et donc, à l'époque, il y avait encore les colonnes au milieu du.
Ah non, mais c'est sûr. Oui, sur le premier gymnase où il y a eu un match officiel qui est à Paris. J'ai plus le nom de ce gymnase, mais ouais, c'est un truc où il y a deux énormes pylônes au milieu du terrain. Comment tu joues? Pardon, je ne comprends pas. Mais bref, et d'ailleurs, ce stade est ouvert au public. Ouais. On peut le visiter si vous voulez, donc si vous êtes de passage à Paris. Malheureusement, on n'a pas la ref exacte, mais je sais que ça existe. Vous pouvez vous renseigner, et voilà. Vive l'ASVEL qui existe donc, qui a une petite année de plus que la NBA. Bah, merci beaucoup les gars pour vos chroniques. Je pense que maintenant, on peut passer à la deuxième partie de l'émission. Donc on va passer sur un débat. Merci en tout cas pour les chroniques. J'espère qu'on vous a appris quelques trucs. Moi en tout cas, j'étais pas au courant de tout ce que vous avez raconté, surtout celle de Fabien sur Michael Phelps, je m'en rappelais plus. Donc voilà, merci beaucoup les gars, et on passe maintenant à la deuxième partie de l'émission. Et donc on va passer au jeu. C'est un qui suis-je. Donc vous connaissez tous le principe. Je vais parler. Je vais essayer de vous faire deviner un sport ou une fédération par rapport à des stats que j'ai juste là sur les tableaux de 2019. Donc sur le nombre de clubs ou sur le nombre de licenciés concernant ces sports. Donc c'est celles qui ont des stats un petit peu marrantes dans le tableau, mais c'est pas forcément les sports les plus connus. On va essayer de vous les faire deviner. On commence plutôt par le moyen ou le difficile? J'en ai deux. Et on pourra peut-être les partager.
C'est le destin qui choisit.
C'est le destin? Eh bien, on va commencer par le difficile. On est chaud.
Parler.
Non, non. En vrai, t'inquiète, ça va aller. Vous êtes prêts?
Yes.
Le premier, vous avez le droit de buzzer quand vous voulez. Je vous laisse faire, mais bon courage pour celle-là. Donc, je suis la Fédération Unisport Olympique ayant connu la plus forte hausse en termes de licenciés entre l'année 2018 et 2019. Même si mes 25,9% de hausse du nombre de licences est impressionnant, je reste la Fédération Unisport Olympique, comptant le moins de licenciés. Je fais partie des sports olympiques depuis 1912, avec les JE de Stockholm en Suède, donc ça fait longtemps que je suis dans les institutions.
Tir à l'arc?
Non, pas le tir à l'arc.
L'athlétisme?
Non.
Non, parce que c'est Unisport, c'est.
C'est Unisport Olympique.
Le tir de précision.
Non. On va continuer. Cependant, ma discipline a toujours beaucoup évolué et ma pratique n'est aujourd'hui plus du tout la même qu'aux premiers Jeux Olympiques. Mon sport a connu de nombreuses réformes visant à en changer les tenants, avec pour objectif de redynamiser l'image de ce sport.
Tu peux répéter juste la fin, s'il te plaît?
Alors. En gros, dans ce sport, il y a eu beaucoup, beaucoup de réformes au courant du XXe siècle pour redynamiser son image. Et donc, ce qu'il y a eu au JO de 1912 ne ressemble plus du tout à ce qu'on a pu avoir aux derniers Jeux Olympiques. C'est aujourd'hui... Vas-y.
C'est un sport d'hiver ou un sport d'été?
C'est un sport d'été. Pardon, c'est un sport d'été. C'est aujourd'hui ma version moderne qui est d'usage, Oumar.
Ce serait pas du surf?
Non, c'est pas le surf. Non,
la lutte.
1912. Non, c'est pas la lutte. C'est aujourd'hui ma version la plus moderne qui est d'usage. Et pour espérer.
La gymnastique.
Non, c'est pas la gymnastique. Ouais, en vrai. Pour espérer obtenir une médaille, il faut savoir être polyvalent. De nombreux talents sont requis pour performer. Et si vous me demandiez, je vous dirais qu'il vous faudrait beaucoup de précision, d'équilibre et d'endurance pour performer. Il me semble d'ailleurs que les athlètes hongrois possèdent ces qualités car il s'agit de la nation la plus titrée de l'histoire en termes de médailles.
Je le sais.
Les Hongrois, là,
ouais. Ah, les Hongrois, ils sont forts dans un. Alors,
putain, il a dit les Hongrois.
Et l'Union soviétique faisait aussi de très bons résultats.
C'est pas le
truc là.
L'escrime.
Non. C'est un truc un peu. Alors, oubliez pas, j'ai la plus grosse performance en termes de hausse de licenciés, mais je suis le sport olympique avec le moins de licenciés en France. Donc c'est un petit sport. Enfin, un petit sport.
Par le rapport panthéon à... moderne.
Le.
Pantheon. Le panthéon moderne.
Le.
Pantheon moderne.
Le. Pantathlon. Tu le dis pantelon. C'est le pantathlon moderne. Bien joué, ouais, Théo. Bon, je vais donner le point à Théo comme ça, quand même, parce que tu l'as deviné. Mais ouais, bien sûr.
Le pantathlon.
Justement, j'allais accélérer là sur la fin. Il faut être à l'aise avec les éléments.
En fait,
car on me pratique.
En fait, je savais plus le nom du sport. Et en fait, ce qui m'a mis.
Et t'as cherché ?
Ouais, c'était le. Parce que en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand t'as dit multisport.
Ouais.
Et en fait, j'hésitais entre ça et tu sais le truc où tu fais l'équitation.
Et bah c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Au
ouais.
Pantathlon
bah,
moderne,
je savais plus comment ça s'appelait là.
Il y avait l'équitation.
C'est équitation, tir.
Alors, je vais vous dire donc faut être bon dans l'eau avec des animaux et sur terre parce que on a l'escrime et plus particulièrement
oui,
l'épée. La natation, l'équitation, le tir et la course. Et le tir et la course sont en combiné. Souvent. Mais ces deux épreuves du pentathlon moderne. Et donc son nom est tiré de sa structure en cinq épreuves. Je suis le pentathlon moderne. Ça fait un point pour Théo. Bien joué Théo. Parce que en vrai, moi je fais le malin parce que j'ai écrit le jeu, mais j'aurais pas deviné.
Il y a pas eu un truc en 2018 où les derniers JO où il y a eu un truc. Je crois que c'était une meuf qui était genre devant tout le long et en fait son cheval il a fait un refus.
Exactement. Et du coup.
Et du coup, bah, éliminé quoi. Alors que, genre, la meuf, elle était. Genre, en gros, il y avait elle et les autres quoi.
Ouais, en tir première, en natation première. Ouais, et ouais. Ça, justement, ça a fait polémique sur la place de l'équitation dans le pentathlon moderne. Et donc, ouais. C'est en réforme.
Le cheval, il a fait nope.
Il a fait nope.
Mais c'est ouf parce que, du coup, ça dépend pas de l'athlète ça. Enfin, ok, le cheval.
Ouais, ouais, c'est le cheval.
Donc, voilà. Mais sport que je connais assez peu finalement. Mais c'était sympa de s'y intéresser.
Merci de m'avoir.
Et je trouve ça fou que ce soit au JO depuis 1912.
C'est ça, en fait, qui est vraiment choquant.
C'est pas parce étonnant que... parce que c'est quand tu regardes tous les sports, c'est des sports assez, tu vois, l'équitation, c'est,
ouais.
C'est tous des sports assez vieux.
Le
hein.
Tir et tous les trucs, ça fait
tout,
longtemps
c'est des vieux sports.
C'est au JO, mais voilà, j'étais étonné. Par exemple, le basket, ça ne date que de 1936.
Ouais, c'est ça. C'est...
Bon, après, le basket est un sport
ouais,
relativement jeune,
mais.
Voilà.
Tu vois, que le cheval et tout.
Ouais, non, mais c'est clair.
L'épée et tout.
Du coup, là, j'étais étonné de ces stats et c'est marrant parce que la meilleure progression licenciée, mais c'est quand même la Fédé qui a le moins de licenciés de tous les sports olympiques. Donc ouais. C'est l'ambivalence entre ces deux stats était
le second.
Marrant. On part sur donc la difficulté moyenne et on est parti tout de suite. Ça fait un point pour Théo déjà.
Incroyable.
Et on est parti. Je suis la fédération Unisport Olympique ayant connu la plus forte hausse en termes de création de clubs entre 2018 et 2019. Je suis d'ailleurs juste devant mon collègue le pentathlon moderne. À l'avant-dernière place du plus petit nombre de clubs, avec 205 clubs à mon actif en France. Mais indice, ces derniers sont rassemblés dans des zones géographiques particulières. Je n'ai pas encore eu le temps de faire de vieux os aux Jeux Olympiques.
La voile ?
Non.
Le surf ?
Mec, c'est le surf.
Yes.
Ah, incroyable ! Oh, j'étais à ça !
Yes.
Oh, non.
Il
a
dit la voile.
Non, c'est moi qui ai dit la voile.
Pardon, oh là là.
C'est toi qui ai dit la voile. Ouais, c'est moi qui ai dit
ah,
la voile.
J'ai cru que c'était Oumar.
Non,
et
oui,
c'est le surf.
Oh, comme
ah,
tu
ça
t'es
va.
Servi de moi, Fabien, c'est
clairement.
Pas bien ça. Ça c'est
pas bien.
C'est pas bien ça, Fabien. Tu t'es servi de moi, putain.
Professionnel.
En fait, le truc géographique,
ouais,
je me
ouais,
dis
c'est
voile quoi.
Ouais, c'était la mer. Bah, je me suis dit, peut-être vous pouvez hésiter avec
après,
la montagne ou les trucs comme ça.
Non.
Mais ouais, globalement, les clubs de surf, j'en trouve pas en Haute-Savoie.
Mais.
La première truc.
C'est un opportuniste, Fabien.
Voilà. Et au JO depuis 2020, c'est ça. Donc ouais, les ça. Premiers JO, c'était cette année, en fait. Enfin, pour la dernière édition des Jeux Olympiques.
Je crois que les Français, voilà. On est chaud, je crois, en plus.
J'ai pas vu les résultats. Je sais que le champion olympique est un Brésilien et que la championne olympique est une Américaine.
D'ailleurs, JO 2024, je crois que c'est à Tahiti. Je sais pas.
Ah,
ouais,
c'est
ça
pas impossible.
Ouais. À savoir que Paris 2024, ça sera pas forcément que sur Paris.
D'ailleurs, fun fact, je vous conseille d'aller voir la vidéo du gars qui a surfé la vague la plus grande du monde.
Ouais.
C'est au
Portugal.
Ouais, c'est au Portugal. Et en vrai, c'est incroyable.
Ok, mais génial. Bah, je suis content que vous ayez deviné le surf assez rapidement. J'avais encore deux, trois trucs.
Vas-y,
mais
bon, on a bravo, le temps de faire la troisième tête.
Bravo à Fabien, on va départager sur la troisième. Mais allez, le truc, c'est que sur la troisième, Théo, t'es vraiment avantagé parce que c'est une particularité du basket. Et c'est une anecdote sur la NBA.
Bah, Fabien aussi, non?
Et du coup, ouais, Fabien aussi, ouais, c'est vrai. Mais c'est...
Même plus Fabien, je pense que Fabien.
Alors,
je pense
par
que
contre, je serais étonné de voir si vous le savez ou pas, parce que moi, pendant longtemps, je ne l'ai pas su. Mais vous savez que les Balance. Clubs aux États-Unis ont tous des noms un petit peu originaux. On a les Bulls, on a les Celtics, et ils ont tous une petite histoire, ces noms-là. Et on va parler d'une des franchises les plus connues, l'un des plus gros marchés qui existe en NBA. On va
les
parler
Lakers.
Des Los Angeles Lakers, exactement.
Ah d'accord, c'est pour ça que je suis avantagé. Okay, parce voilà. que c'est mon équipe préférée.
C'est l'équipe que t'aimes bien. Voilà.
Ok, d'accord.
Donc on va parler des Lakers. Et en fait, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous savez pourquoi les Lakers? Pourquoi le nom des Lakers?
Oh. Ils étaient à Salt Lake City avant?
Essayez de deviner. Alors, avant, ils n'ont... Donc, tu as raison, ils n'ont pas toujours été à Los Angeles, mais ce n'était pas Salt Lake City, qui est aujourd'hui la ville du Utah Jazz.
Ouais, parce qu'ils ont commencé dans les années 50.
Alors, ça a commencé même en fin des années 40.
J'ai entendu, je suis sûr que c'est à côté de lac, forcément.
Donc, faut que tu, en vrai, ce serait cool que tu trouves où c'est.
Je ne connais pas du tout les lacs aux US.
Donc, déjà, voilà, c'est ça. Il y a une localisation qui était avant Los Angeles qui est en rapport avec l'origine du nom.
Ouais. Bah, Lake.
Ouais.
Lake City, donc Lake.
Non, mais c'est pas
c'est ça. Vous avez trouvé le rapport au lac.
C'est d'autres lacs.
Mais aux États-Unis, il y a plusieurs régions qui ont des lacs. Et ouais, d'ailleurs, c'est une région qui habite aujourd'hui, en tout cas dans son état, une autre franchise NBA.
Ok.
Pourquoi je suis pas bon en géographie américaine?
Je suis pas bon en géographie américaine.
Bah alors... une grande région de lacs aux États-Unis. Est-ce que vous essayez dans...
Ah, mais en plus, avoir 2 grammes aussi, ça aide pas.
Ouais, bah, ouais, parce qu'on l'a pas dit, parce que Théo a un peu... On est vendredi midi, à l'heure où on enregistre ça, et donc le jeudi soir était bien arrosé.
Ah, ouais. La troisième mi-temps, on le connaît.
Bah oui, mais voilà.
Sans match, mais troisième mi-temps quand même.
Minneapolis, non?
Oh,
ah, il a regardé sur le téléphone. Il a regardé sur le téléphone.
Pourtant, Théo n'a pas
triché. T'as triché?
Non.
T'as triché?
Bah non.
Gros, fais voir ton tel.
Ah, j'ai pas regardé.
T'as triché.
Je suis dans mes scènes.
T'as triché. Tu mens. Je t'ai vu, t'étais sur un truc avant.
Non, Omar, non, mais j'ai pas regardé.
Mais j'ai pas triché, je suis sur mon téléphone.
Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, j'ai vu
j'ai vu la page avant.
La petite page Wikipédia.
Menteur, tu ne gagneras pas ce jeu.
T'as vu appuyer sur le
menteur. Ah ouais, c'est fou.
Non, mais l'intention, c'est de participer.
Voilà. Mais oui, il a raison, c'est Minneapolis. En fait, en 1949, des hommes d'affaires rachètent.
C'est eux qui ont gagné le premier titre?
Et alors, c'est... Alors, est-ce que c'est eux qui ont gagné
ouais,
le premier titre?
Ouais, je crois que c'est eux, Minneapolis
Lakers.
Ouais, qui ont gagné le voilà. tout premier titre.
Donc ça, c'est pas impossible, mais là, je me rappelle plus de la stat. Ça a été racheté par des hommes d'affaires de la région, donc de l'état du Minnesota, qui est aussi appelé l'état aux 10 000 lacs. Et donc, c'est pour ça qu'on les a appelés les Minneapolis Lakers, qui ont gardé leur nom quand ils ont bougé à Los Angeles. Et aujourd'hui, ça s'appelle Los Angeles Lakers. Donc, on retirera le point à Oumar, ce tricheur. Mais merci, les gars, d'avoir participé à ce jeu. Ça vous a plu? C'était cool?
C'était super.
C'était voilà. incroyable.
Est-ce que tu as une traduction de Lakers en vrai?
Et vive le Panthéon bah, moderne.
L'équipe
le
des
Panthéon
lacs.
Moderne.
Ouais, je sais pas. Ouais.
Pantathlon. Pas le Panthéon
moderne.
Le ouais, Panthéon.
Panthéon moderne. C'est autre chose, le Panthéon.
Ouais, l'équipe des lacs, je pense, les Lakers. Ceux qui jouent dans les lacs. Je pense que c'est la traduction la plus littérale que.
D'ailleurs, force à tous les supporters des Lakers, parce qu'en ce moment,
ouais,
c'est pas
vrai,
facile.
Cette année, c'est compliqué.
Mais on est mais ensemble. Bon.
Mais voilà, petite anecdote pour ça. Bah, en tout cas, les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir. La première émission sur le thème du sport. Au troisième lieu, vous allez en retrouver d'autres. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu.
Et buvez avec modération.
Et buvez avec modération, surtout toi, Théo. Voilà, au plaisir de vous retrouver sur tous nos réseaux, Instagram, Twitter et bientôt un TikTok et évidemment sur les plateformes de streaming pour écouter nos émissions. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci, les gars.
Ciao.
Ciao.